mes deux invités, mais ça vous le savez, ils sont arrivés, Robert Herrmann, président de l'Eurométropole, et Philippe Geiss, saxophoniste. Bonjour à vous deux, et merci de vous être levés très tôt pour être présents à cette émission. Lequel des deux a eu le plus de mal à se lever? J'ai l'impression que c'est Philippe.
Mais c'est-à-dire qu'on ne dort pas ensemble, non? Non, c'est
pas répondre. Oui, puis moi j'avais une réputation d'artiste à maintenir, donc il fallait que j'arrive juste au moment de l'entrée en scène, comme le disait Robert.
Voilà, quand vous êtes arrivé dans ce studio, Philippe. On vient d'entendre un chant de Noël, et à cette époque de l'année, quel est le sens du message d'un homme, d'un élu, qui s'investit dans la vie collective, Robert Herrmann?
Ah, peut-être la bienveillance, l'attention aux autres, parce que je crois que cette période est propice aux grandes peines pour des gens qui les subissent et qu'on ne les voit pas toujours et qu'il faut y être attentif.
Est-ce que cette période de Noël est quand même une période de trêve où on met les querelles partisanes un peu de côté?
Ben, certains essayent, je constate que ça ne marche pas toujours. Mais oui, c'est souhaitable, je veux dire, le débat politique s'estompe au profit de la rencontre familiale, amicale, je veux dire, pendant cette période, et que on laisse la place à toute autre chose. Et puis, il y a assez de politique toute l'année, me semble-t-il, en tout cas.
Et vous, est-ce que vous aurez un peu de temps pour vous reposer?
Oui, je vais le prendre pour être aussi en famille et avec les amis et faire toute une série de choses que je n'ai pas le temps de faire le reste de l'année.
Mais vous aurez aussi des problèmes à gérer en cette fin d'année?
Oui, parce que j'ai quelques responsabilités à la ville de Strasbourg sur la sécurité et je passe en règle générale ma nuit de Nouvel An entre le temps de saluer ma compagne, mes amis et puis la rue et des salutations aussi à tous celles et ceux qui assurent notre sécurité, la police, les pompiers, les services de la préfecture, les services de la métropole qui sont à pied d'œuvre ce soir-là et cette nuit-là.
Alors je vous ai invité à participer à cette émission avec Philippe Geiss car vous êtes ami et vous avez soutenu Philippe lorsqu'il est venu vous présenter un projet il y a quelques années. Malgré la folie du projet, vous avez dit ok.
Oui, c'était le congrès mondial du saxophone et c'est une belle histoire. Oh, j'ai déjà raconté plusieurs fois, donc on va faire vite, mais c'est l'histoire d'un homme qui appelle un homme politique et qui lui dit « j'ai un projet, je ne sais pas exactement en quoi ça consiste, c'est de la musique et du saxo, ça relève d'un congrès mondial, je ne sais pas combien ça coûte et je ne sais pas encore comment on va le faire, mais est-ce que tu es d'accord ?» Et on finit par tomber d'accord. Une année après, il me rappelle, il me dit « alors tu as réfléchi ?» Et je lui dis « mais tu ne m'as pas donné de projet, mais je ne l'ai pas, mais il faut que tu donnes ton accord parce que sinon ce ne sera pas à Strasbourg. » Voilà, je schématise un peu, mais c'était pas loin de ça.
C'est vrai.
Et après, c'est sur la confiance que les choses se font. Et puis, comment ne pas avoir confiance dans quelqu'un qui écrit des notes et qui est tellement méticuleux dans tout ce qu'il fait? Je veux dire, il n'y avait pas de motif, en tout cas, d'être dans l'angoisse, et ni dans la difficulté particulière qui aurait pu intervenir en gestion d'un budget. Et tout ça s'est magnifiquement terminé, malgré la difficulté de la tâche. Philippe s'y est attaché, avec ses amis, avec ses collaborateurs et collaboratrices. Et ça a été un merveilleux moment, je dirais, pour notre cité, notre territoire. C'est dommage que ce soit tous les 60 ou 70 ans. Je veux dire que si on pouvait raccourcir le temps, moi j'aimerais bien vivre ça une deuxième fois.
Philippe, vous avez d'autres projets à soumettre à Robert Herrmann?
J'en ai toujours et on travaille toujours ensemble sur des projets quand même souvent moins ambitieux que le Congrès mondial, mais on est toujours en rapport et puis quelquefois Robert me sollicite parce qu'il est très amoureux de la musique et des artistes et a toujours soutenu les artistes et les artistes le savent d'ailleurs et le remercie de tout cœur de tout cela. Donc on se voit, on fait des choses ensemble sur le plan artistique. Récemment Robert m'a aussi soutenu dans la démarche de produire un disque ou coproduire un disque aujourd'hui, parce que c'est une aventure compliquée, mais qui s'est faite avec une autre histoire d'amitié avec Thomas Pesquet, qui est un homme avec lequel nous sommes en contact tous les deux. Et donc on a la chance de partager beaucoup de beaux rêves qui deviennent des réalités. Et on a toujours plein de rêves en réserve.
ce disque Nomad Music, publié par Nomad Music, oui. Philippe Geiss et ses amis, vous auriez pu y inclure Robert Harman parmi les participants.
Oui, mais pour l'instant, il n'a toujours pas trouvé assez de temps pour travailler son saxophone tous les matins avant de venir à Accent 4, donc c'est pour ça que ça pose un petit problème.
Vous pratiquez la musique,
Robert? Non, mais je ne voulais pas que Philippe fasse la politique.
Voilà, donc... exactement.
Non, c'était, je veux dire, moi je suis très amoureux des talents, je ne suis pas spécialiste, je veux dire, comme vous l'êtes ici, mais c'est vrai que... Nous avons cette relation, je veux dire, qui est faite de complicité, qui est faite de beaucoup d'amitié, et en tout cas beaucoup, beaucoup d'admiration et de respect.
Thomas Pesquet, effectivement, c'est un peu le dénominateur commun de cet enregistrement. Oui. Il était prévu, Robert Harman, qu'il vienne en janvier, c'est toujours d'actualité ou...
Alors, Thomas Pesquet a un programme qui est extrêmement chargé, puisqu'il continue, je veux dire, la phase recherche, fondamentale en particulier, appliquée. Et son manager, en quelque sorte, celui qui gère son agenda, n'a pas pu garantir sa venue pour le soir de notre soirée au Monde Économique, qui réunit à peu près 1200 personnes. Et nous avons été amenés à devoir modifier les choses, belle modification en l'occurrence, puisque nous aurons trois prix Nobel qui nous font l'honneur d'être présents. Et c'est dans la même veine que ce que je pourrais dire sur Philippe. Comment est-ce qu'une collectivité locale met en valeur les talents de chez elle? Et j'ai souvent été surpris par le fait qu'on allait chercher ailleurs, je veux dire, des talents qu'on avait sur place et qu'on ignorait, non pas qu'on méprisait, mais qu'on ignorait en tout cas. Et moi, j'estime que la fonction d'une collectivité, c'est de mettre en valeur, je veux dire, des gens qui excellent à travers la planète, mais que nous avons chez nous, et non pas les ignorer en considérant que c'est bien qu'ils rayonnent, et puisqu'on les a chez nous, n'en parlons pas. Voilà, si on peut inverser cette tendance, c'est bien, c'est la raison pour laquelle je m'attache à faire en sorte que celles et ceux qui, ici en tout cas, développent des projets magnifiques qui font rayonner le territoire et donc qui nous aident considérablement, je veux dire, puissent être mis à l'honneur chez eux. Je crois que c'est très important.
C'est le cas actuellement avec l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg. Son enregistrement des Troyens est unanimement et mondialement reconnu comme l'un des événements discographiques de cette année 2017.
Oui, c'est quelque chose qu'il faut que nous mettions encore plus en valeur. Il fut un temps premier adjoint, j'ai largement participé à un certain nombre de mouvements qui sont intervenus à l'intérieur de l'orchestre. J'ai eu l'occasion d'apprécier l'arrivée de Marco Lettonia, et Marco est quelqu'un de tout à fait admirable et que j'aime beaucoup. Et l'orchestre est aujourd'hui en capacité effectivement de produire cela. Ça n'a pas toujours été le cas. Et moi, je me réjouis du fait que l'orchestre soit effectivement aujourd'hui à son niveau et en capacité effectivement de projeter l'image, la sienne d'abord, de ses talents individuels et collectifs, et puis par-delà, j'irai de faire briller notre territoire comme un territoire de culture, d'innovation et de plaisir.
Et Philippe, vous étiez avec l'orchestre à Munich samedi dernier.
Absolument, c'était un très grand plaisir dans une salle mythique et magnifique. Et je bois les paroles de Robert parce que je trouve que les orchestres sont dans une phase compliquée de mutation. J'ai le plaisir de participer à un groupe de travail à l'université sur ce sujet, sur les orchestres. Qu'étaient-ils? Que deviendront-ils d'ailleurs? Et je trouve que les orchestres ont avant tout, celui de Strasbourg comme je dirais, la majorité des orchestres, a besoin surtout de motivation, de en même temps de prendre conscience de la chance qu'ils ont d'être dans une ville qui soutient un orchestre de cette importance, et en même temps de toujours avoir des projets qui les tirent en avant, qui leur donnent envie de toujours donner le meilleur d'eux-mêmes, parce que musicien d'orchestre, c'est un métier qui sollicite les personnes à chaque instant. Il faut que les personnes aient toujours envie de donner le meilleur d'eux-mêmes, mais c'est pas simple. Et je trouve que, effectivement, des projets comme les Troyens, c'est magnifique. Mais chaque jour et chaque fois qu'on prend son instrument, on doit avoir, me semble-t-il, la conscience de dire « j'ai la chance de faire cela ».
On revient au disque, oui. Philippe Gaïs et ses amis, tout part donc de Thomas Pesquet, et vous avez d'ailleurs écrit une pièce pour lui.
Absolument, oui, j'ai écrit une pièce pour lui, et d'ailleurs j'ai eu le très grand plaisir de lui faire dédicacer la partition il y a 15 jours, parce que j'ai vu Thomas à la cérémonie de la remise des prix de l'excellence française il y a 15 jours à Paris, et nous avons pu discuter quelques instants parce qu'il était évidemment assailli de toutes parts, et donc il m'a remercié pour cette partition qu'il a dédicacée et tout cela. Et en fait, Thomas était la source d'inspiration de cette œuvre et tout. Mais ce disque est une histoire assez étrange parce que c'est une sorte de grand puzzle qui a pris forme très naturellement à un moment donné, et tous les éléments qui semblaient éparpillés en fait étaient tous les pièces d'un puzzle très logique, puisque la première pièce jouée est une pièce qui est de l'année de mon année de naissance et en même temps de l'année du premier vol spatial. La dernière pièce est celle qui est dédiée à Thomas Pesquet. Il y a plein de connexions comme ça, et c'est vraiment une belle aventure, et un disque qui remporte un bel écho, ça fait très plaisir aussi.
Et ce disque s'écoute de la première à la dernière plage sans coupure. Mais malheureusement, il faudra qu'on fasse une coupure, nous. Robert Harman, c'est un disque de chevet pour vous ?
Non, c'est non, parce que ça pourrait être traduit de plusieurs manières. C'est d'abord une belle histoire. Philippe évoquait le puzzle. Alors pourquoi est-ce que une métropole comme la nôtre plonge dans un projet comme celui-là ? D'abord parce que nous avons acheté un certain nombre de disques pour assurer la promotion économique et scientifique de l'agglomération. Évidemment artistique aussi à travers Philippe, mais ça a été un peu le prétexte. Nous sommes en relation avec l'ISU. Beaucoup de gens ne savent pas qu'à Strasbourg, nous avons une université unique au monde, qui est l'université de l'espace, dans laquelle passent les cosmonautes, astronautes du monde entier.
Et Thomas Pesquet y est passé.
Passent celles et ceux qui participent de la fabrication des fusées, mais aussi de celles et ceux qui font des vols spatiaux. Et étant en relation pour garantir le maintien de cette magnifique université et remarquable pour notre territoire, il s'avère que Jean-Jacques Favier, qui est astronaute et qui était directeur des études, avait demandé un soutien à la collectivité, qui a été trouvé, mais aussi à travers une très belle assurance agricole locale qui a donné un coup de main pour une petite boîte de 10 cm sur 10, qui est partie avec Thomas Pesquet, dans le cargo satellitaire. Et cela vise à vérifier s'il y a ou pas de la vie sur Mars. L'Université de Strasbourg est pleinement associée à l'Université de l'Espace, mais aussi à ce programme de recherche. Et c'est dans ce cadre-là où, d'animation en animation, Philippe Gaïs a été sollicité également pour participer à des soirées d'animation, je veux dire, puisque à l'occasion du vol de Thomas Pesquet, vous savez que des enfants ont été invités de plusieurs écoles de la ville et de l'agglomération. Il y a eu toute une série d'animations qui permettent de découvrir en fait ce qu'est ce monde très particulier, qui est celui de l'espace, et à quoi il sert, et pourquoi on fait des investissements aussi importants dans ce registre-là. Et comme tout cela, c'est bien en manché, si je puis dire, en l'occurrence, Philippe Gaïs a été en relation avec Pesquet pour une histoire qui était née, pour ce qui me concerne, déjà au Festival mondial du saxo, parce que Philippe avait recherché celui qui pouvait jouer du saxo le plus profond dans un sous-marin.
J'avais trouvé des gens dans un sous-marin, j'avais trouvé un pilote d'avion, et on m'avait parlé d'un astronaute qui rêvait d'emmener son saxophone dans l'espace, puisqu'il était saxophoniste. Et c'était Thomas.
Et donc, à travers Jean-Jacques Favier, ancien astronaute, et directeurs d'études. Le lien s'est fait assez naturellement. Et quand Philippe a dit « je vais écrire une musique », non seulement ça, mais nous allons envoyer un saxophone dans le cargo de Thomas Pesquet pour qu'il puisse jouer. Et ça va être la magnifique entreprise française Selmer qui va réaliser ce saxo sur mesure, parce que c'est très compliqué d'envoyer quelque chose dans l'espace. Dit, mais tout ça est absolument magnifique. On valorise en même temps une entreprise française de premier plan, reconnue mondialement pour son savoir-faire dans votre monde. On est en train de valoriser une université exceptionnelle, qui plus est dirigée par quelqu'un, Jean-Jacques Favier, qui a fait ses études au lycée Kléber de Strasbourg, magnifique représentant local, mais aussi international pour nous, en rayonnement. Philippe Geis, connu mondialement pour ses œuvres et son talent. Tout ça marchait tout à fait bien. Voilà comment on est, en fait, une histoire commune. Pour quelque chose dont je le précise pour que les gens n'aient pas de fantasmes négatifs, je veux dire, ne coûte pas des fortunes à la collectivité. Et je trouve que associer la recherche, l'économie, les arts, est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Et cette chance nous a été donnée par cette conjonction très particulière, je veux dire, des phénomènes qui se sont réunis.
Eh bien, on va écouter Philippe, on va écouter la dernière pièce Sœur Patrick, et puis on se retrouve juste après pour parler très rapidement de Noël. Thank you. Effectivement, comment ne pas applaudir après avoir entendu cette pièce Sir Patrick, une pièce qui a été commandée par l'US Navy, c'est ça, Philippe ?
Absolument, c'est une commande de l'US Navy et c'est donc le bis de tous les concerts de l'orchestre de l'US Navy, de l'orchestre de Washington.
Voilà, comme Robert Herman le précisait, cette petite pièce participe au rayonnement de Strasbourg et de l'Alsace en général. Parlons de Noël. Robert Herman, quel souvenir avez-vous, vous, de Noël ?
Mes souvenirs, c'est les oranges. C'est particulier, mais quand j'étais petit, c'était encore rare. Cette odeur de clémentine et d'orange, surtout d'orange, dont on pressait la pelure pour faire pétiller les bougies.
Ah oui, c'est vrai. Philippe ?
Moi, c'était une petite bêtise d'enfant. Il y avait un sapin de Noël à la maison, et avec mon frère, nous jouions avec des allumettes.
On n'imagine pas le résultat.
Le petit sapin a pris feu et mon père a sorti précipitamment le sapin de la maison, mais au passage, ça lui a fait brûler sa barbe.
Vous aviez quand même eu des cadeaux cette année-là ?
Nous avons quand même eu des cadeaux.
Vous perpétuez cette tradition de Noël en famille,
oui.
Robert Herman.
C'est important. Tout à fait, oui. C'est un joli moment de rencontre, c'est un moment de bonheur de se retrouver, en famille et souvent avec des amis.
Est-ce que l'homme politique aimerait encore croire au Père Noël ?
Ah, il m'arrive d'y croire encore, quelquefois, même si je me raisonne très vite, mais il y a des fois où je me dis que ce serait bien, oui. Surtout dans les périodes budgétaires.
Oui, je veux bien vous croire. D'ailleurs, je crois que vous avez une séance demain.
Oui, tout à fait, c'est le budget de la métropole, une gageure, 1,5 milliard de budget, je veux dire qu'il faut arriver à organiser. Ça paraît beaucoup, et moi, à chaque fois, je trouve que c'est dérisoire.
Philippe, vous croyez encore au Père Noël, je suis persuadé.
Moi, j'y crois tous les jours, parce que quand on est artiste, il faut aussi croire au Père Noël, parce que c'est un métier de passion, et même si on essaie d'être un petit peu prévoyant, on doit, quand on accepte d'être artiste, quand on a envie d'être artiste, croire fortement au Père Noël, parce que on ne sait pas de quoi sera fait le lendemain, et on doit s'habituer à vivre avec cette idée-là, mais notre quotidien est magnifique, donc savourons le présent surtout.
Bien. Mon petit questionnaire de Proust, et puis ensuite on écoutera l'extrait que vous avez choisi, Robert Herman. Philippe, quelle est votre œuvre symphonique ou de musique de chambre préférée ?
Le trio de Francis Poulenc.
Ah, très bien.
Robert Herman. La lettre à Élise de Beethoven.
Votre chef d'orchestre préféré, vous n'avez pas le droit de citer Marco Lettonia, Robert Herman.
Ah si, mais moi c'est un chef préféré de cœur, je veux dire.
Je l'avais écrit aussi.
Mais quand même, si on peut s'arrêter une seconde,
oui.
Pour dire la chance que nous avons à Strasbourg d'avoir cet homme, pour dire d'abord le talent, moi qui ne suis pas un grand spécialiste, donc je m'érige pas en juge artistique, hein, c'est pas du tout cela, mais les qualités humaines de ce bonhomme, son sourire, son énergie, son envie d'emmener tout le monde, je dirais quelque chose de tout à fait exceptionnel. Et pour avoir la chance de le côtoyer de temps en temps, voilà, j'avais envie de dire ça. Peut-être que des gens ne seront pas d'accord avec moi, mais j'avais envie de le dire pour lui, parce que c'est, je crois, pour Strasbourg et pour notre région, pour l'orchestre, je crois que c'est une vraie chance d'avoir.
Et puis, quelle belle qualité humaine que de prêter son orchestre au régisseur général en tournée en Corée pour qu'il puisse... Marco estimait que c'était le meilleur pour diriger une œuvre de Paul Boistel.
Oui.
Je ne connais pas beaucoup de chefs qui auraient fait ça.
Oh non. Mais c'est justement un exemple de sa générosité.
Bon, Philippe, je ne te pose pas la question. C'est forcément Marco Lettonia aussi. Quel personnage d'opéra auriez-vous aimé être ?
Alors, j'ai un peu... changer, j'ai pas parlé d'un personnage d'opéra, ou l'un des personnages de l'opéra In Un Zürich de Pauline de Mitte, parce que j'ai eu la chance de voir les opéras Minute en compagnie de Madeleine Millot et la création de cet opéra, et ça m'a vraiment interpellé cette forme de petits opéras de 20 minutes. Je trouve que c'est une forme qu'on devrait explorer Peut-être un peu plus.
Est-ce que vous vous ennuyez généralement?
Pas du tout, pas du tout, mais je suis toujours sensible au sujet et à la façon dont on peut amener le public vers justement une forme qui peut rebuter parce qu'on pense qu'elle est trop longue. Et je trouve que la forme courte peut être une façon d'amener le public à l'opéra.
Robert Herrmann.
Oui, moi je sèche un peu sur cette question parce que en définitive, il y a, je veux dire, dans les rôles et compositions qui existent, je veux dire, tellement de variétés qui peuvent inspirer et qui peuvent donner envie, je veux dire qu'il est difficile de faire le choix.
Quelle œuvre littéraire auriez-vous aimé écrire, Robert Herrmann?
Alors, moi j'étais sur des proches avec le manuel du savoir-vivre à l'usage des malotrus et des rustres et des malpolis.
Et pour moi, c'est le cantique de l'apocalypse joyeuse d'Artaud Paaslina.
Vous avez de temps en temps envie de faire des réponses à la Desproges lors d'assemblées ou par exemple demain, lorsque vous allez devoir discuter du budget et le faire voter?
Oui, il peut m'arriver d'avoir quelques répliques cinglantes, mais j'essaye de me raisonner parce qu'on n'est pas tous au même degré d'humour.
J'en ai entendu une très belle récemment. Je ne bois jamais à outrance, je ne sais pas où c'est.
J'adore. C'est pas de moi.
Non, c'est de Desproges. Bref, quelles sont les qualités que vous appréciez le plus chez un homme ou une femme?
Alors, j'y reviens, la bienveillance. Je crois vraiment que nous avons besoin dans notre société qui est très complexe et très dure pour beaucoup de gens, y compris de gens qui ont des responsabilités et qui sont dans la réussite, mais la compétition par exemple, y compris dans le milieu artistique, etc., est quelque chose de difficile. Et je suis surpris quelquefois, souvent, par cette capacité de jugement abrupte qu'ont un certain nombre de personnes sur les autres. Et je trouve ça quelquefois excessif, vraiment excessif. Et la bienveillance, ça permet de retenir peut-être le meilleur des hommes et des femmes.
Philippe.
J'ai écrit la générosité, mais je trouve que le mot de Robert est mieux choisi et je le partage complètement.
Et les défauts que vous ne supportez absolument pas?
Moi, je n'aime pas le mensonge et j'aime pas les gens qui biaisent. Je préfère les gens qui s'expriment directement, qui expriment une opinion claire, parce que ça provoque le débat et que le débat n'est jamais négatif, à la condition qu'il soit respectueux. Par conséquent, je veux dire, je crois que c'est bien de pouvoir exprimer des choses, exprimer y compris des désaccords, et de le faire en toute sincérité. Je veux dire, dès lors que cela est réfléchi, pensé et respectueux, je veux dire que les accords nourrissent le débat et le font grandir, je crois en tout cas.
Philippe.
Moi, je dirais le manque d'écoute, parce que savoir écouter une personne, c'est déjà un bon début.
Écouter avant de juger.
Voilà.
Et celle que je préfère, votre juron préféré, Robert Herrmann.
Moi, je dis souvent merde, mais j'évite parce que je sais que c'est pas bien du tout et que mes parents me disaient ça il y a très très longtemps déjà, mais c'est difficile.
Et moi, je me suis souvenu d'un juron que je trouve très mignon, qui est saperlipopette.
Ah, c'était celui de Mathieu.
Et ben voilà.
Il y a 48 heures de Mathieu Schneider. Ben, merci beaucoup. Vous avez choisi un extrait musical, Robert Herrmann. Lequel?
C'est Barbara, parce que d'abord, il y a la Philharmonie, et je le conseille à tout un chacun, et d'aller voir cette exposition magnifique et l'histoire de Barbara, qui est une histoire tourmentée, difficile, mais une voix magnifique qui manque et que moi j'aime beaucoup, beaucoup.
Eh bien, on écoute, c'est un live de 1969, elle est en compagnie de Georges Moustaki. Oui.
Dame brune, j'ai inventé une chanson au clair de la lune, quelques couplets. Si jamais elle l'entend un jour, elle saura que c'est une chanson d'amour pour elle et moi.
Je suis la longue dame brune que tu attends. Je suis la longue dame brune je t'entends, chante encore au clair de la lune. Je viens vers toi, ta guitare de fortune guide mes pas.
Pierrot m'avait prêté sa plume ce matin-là, à ma guitare de fortune. J'ai pris le la, je me suis pris pour un poète en écrivant les mots qui passaient par ma tête comme le vent.
Pierrot t'avait prêté sa plume cette nuit-là, à ta guitare de fortune. Tu pris le la et tu t'es pris pour un poète. Comme le vent.
J'ai habillé la dame brune dans mes pensées d'un morceau de voile de brume et de rosée. J'ai fait son lit contre ma peau pour qu'elle soit bien, bien à l'abri et bien au chaud entre mes mains.
Habillé d'un voile de brume et de rosée, je suis la longue dame brune de ta pensée. Chante encore au clair de la lune, je viens vers toi à travers les monts et les dunes. J'entends ta voix
pour une longue dame brune. J'ai inventé une chanson au clair de la lune, quelques couplets, je sais qu'elle l'entendra un jour, qui sait demain, pour que cette chanson d'amour finisse bien.
Bonjour, je suis la dame brune, j'ai tant marché. Bonjour, je suis la dame brune, je t'ai trouvée. Fais-moi place au creux de ton lit, je serai bien, bien au chaud, bien à l'abri, contre tes reins.